Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h, 22h30 sur RTF après une petite interruption de 2 semaines. Alors c'est vrai que nous avons été légèrement grippés, pour dire les choses. C'est un euphémisme, on va dire. Hein. Et donc, cela nous a tenu éloigné loin des micros, mais nous revoilà en pleine forme, d'autant plus que cette semaine, un grand événement nous attend, Laurent et moi, puisque nous nous rendons au Festival International du Film de Gand en Belgique, et nous allons notamment fréquenter la section musique de film, puisque tous les ans, lors de ce fameux festival, sont remis les World Soundtracks Awards, c'est-à-dire l'équivalent des Oscars, mais pour la musique de film. Et cette année, il y aura donc 2 concerts, un concert hommage à Philippe Rombi et Elliot Goldenthal. Alors Philippe Rombi, c'est le compositeur des musiques des films de François Ozon. Hein, voilà, mais pas seulement. Hein, Philippe Rombi a travaillé récemment pour Yann Gosselin pour le film Boîte Noire ou encore Vision. Et puis il a signé la musique du Temps des Secrets il y a 2-3 ans. Voilà, Philippe Rombi, un compositeur que nous aimons beaucoup, que nous avons déjà passé dans cette émission. Et puis il y aura également un hommage à Elliot Goldenthal, compositeur américain, qui recevra mercredi soir un Life Achievement Award pour l'ensemble de son œuvre. Alors on se souvient d'Elliot Goldenthal pour tout d'abord un film fantastique qui avait fait sensation il y a quelques années. C'est la première adaptation au cinéma du roman de Stephen King, Cimetière. Et puis on l'avait ensuite appelé pour la musique d'Alien 3, le film de David Fincher. Voilà, et puis depuis, il a signé de très très belles BO, notamment la musique de Michael Collins et celle du biopic consacré à Frida Kahlo, qui s'intitulait tout simplement Frida, et qui était réalisée par sa femme Juliette Temor. Et donc, Elliot Goldenthal sera présent. Et puis, un concert hommage à un compositeur qui est cher à nos cœurs et qui a disparu lors d'un accident d'avion, c'est James Horner. James Horner qui a percé vraiment, on peut dire, en 1985 avec la musique de Cocoon, une production, je crois, de Daryl Zanuck en coproduction avec Spielberg. Et puis depuis lors, James Horner a connu une carrière phénoménale puisqu'il a signé des musiques connues dans le monde entier. On se souviendra en particulier de Braveheart et de Titanic, qui est un petit peu son titre de gloire. Il a travaillé aussi avec Jean-Jacques Hano sur un certain nombre de ses films, notamment Le Nom de la Rose et plus récemment Wolf Totem. Voilà, donc un compositeur qui sera à l'honneur cette semaine à Gand en Belgique, et nous aurons donc la chance d'y être. On vous en fera le compte rendu sans doute la semaine prochaine. Voilà, donc on est très heureux de vous retrouver pour une soirée consacrée à l'actualité du cinéma. C'était hier la clôture des 9e rencontres cinématographiques de Limoges. Un rendez-vous désormais connu par les cinéphiles limougeaux. Et cette année, le film qui a obtenu le prix du public et le prix de la critique, d'ailleurs, le prix du public et le prix étudiant. Voilà, c'est le film Enfant phare, réalisé par Emmanuel Courcol. C'est ce film qui a vraiment réuni tous les suffrages. Et pour clôturer ces 9e rencontres, c'est le film de Gilles Lellouche qui a été projeté hier après-midi, L'amour ouf. C'était d'ailleurs une avant-première quasiment nationale, puisqu'en fait le film avait été projeté simultanément dans une centaine de salles en France. Et la particularité, c'est que Gilles Lellouche et son équipe étaient en direct, en duplex, et donc après la projection du film, les spectateurs ont pu échanger avec le réalisateur et les comédien du film. Voilà, ça c'était plutôt sympathique. L'amour ouf que j'ai pu d'ailleurs voir aussi hier après-midi dans une salle comble d'ailleurs. Alors je vous en parlerai peut-être tout à l'heure dans l'actualité du cinéma. Et puis, ben voilà, pour commencer cette émission, je salue mon ami Laurent en pleine forme, à nouveau.
Oui, bonsoir. Oui, retapé comme Ben, comme il y a 15 jours, hein, 3 semaines, voilà.
Voilà. Refait à neuf.
Donc, bah oui, on va cette semaine nous consacrer pleinement à la musique de film.
Et oui.
En vous y disant, on vous donnera quelques petites nouvelles quand on reviendra, forcément. et puis, bon, par contre, j'ai une petite mauvaise nouvelle, la disparition d'un grand acteur. Alors, peut-être pas très connu par son nom, mais qu'on a vu assez fréquemment. Sur dans le 7e art, et en particulier le cinéma de patrimoine, mais aussi, et je crois que c'est par ce biais-là que je pense le grand public le connaît le plus, c'est surtout qu'il a officié souvent aux côtés d'un grand acteur français qui a disparu aujourd'hui, c'est Jean-Paul Belmondo. Oui. Mais voilà, il était souvent, il occupait souvent les seconds rôles. C'est Pierre Vernier. Oui. Et Pierre Vernier, en fait, il a tourné quand même avec les plus grands réalisateurs, parce que on parle de Marcel Carné, Marc Allégré, Denis de la Patelière, Claude Chabrol, Henri Verneuil. Et puis j'en passe, et des meilleurs. Et donc, forcément, il a épaulé souvent Jean-Paul Belmondo, entre autres, à travers ce film très connu et très populaire, c'est Le Professionnel. Mais comme je vous le disais, il a joué dans des films comme le film de Marcel Carné, Juliette ou La Cité des Songes, Les Affreux de Marc Allégré, Rue des Prairies de Denis La Patelière, Les Yeux de l'Amour, Dans l'Andru, les films de Claude Chabrol, Henri Verneuil avec Week-end à Zoutcôte. Donc voilà, vraiment des grands films. Et donc, Paris brûle-t-il, j'en passe, Caroline Chéri, c'est vraiment des films mythiques du cinéma français, Stavisky, d'Alain René, et puis bon, vraiment des grandes figures du cinéma, et donc aussi un physique qui était reconnaissable entre tous, et puis souvent, à côté de Jean-Paul Belmondo, il jouait vraiment des rôles, souvent de rôles de méchants, en fait, pas forcément des rôles très amicaux, mais en tout cas,
Il avait quand même joué dans une série mythique de la télévision française, c'est Rocambole.
Voilà.
Parce que, ça, c'est quand même, on s'en souvient pour cette série. Entre autres.
Verneuil avec Ico Micard, parce que avec des gros à côté de Montand, Le Guignolo, donc pour aussi Jean-Paul Belmondo, La Provinciale, donc Le Professionnel, Josépha, Qu'est-ce qu'on entend pour être heureux de Colline Serrault, Pierre Garnier de Fer avec Cours Privé, Itinéraire d'un enfant gâté. Avec Lelouch, vraiment,
Ah oui, non, mais une carrière assez ample. Et pour revenir à la télé, d'ailleurs, je me souviens de la présence de Pierre Vernier dans quelques épisodes de Chapeau Melon et Bottes de Cuir, dans la dernière saison, en fait, de Chapeau Melon, lorsque Lina Thorson avait laissé la place à Joanna Lumley. Tu sais, elle a joué le rôle de Pearlie. Mmh. Et il y a quelques épisodes qui se passaient en France, avec Pierre Vernier, justement.
Et il a joué aussi, pour terminer, enfin plus récemment, le premier long-métrage de François Ozon.
Qui n'est autre que... Attends, là, c'est peut-être un piège. Je ne sais pas.
Il n'y a vraiment pas de...
Goutte d'eau sur Pierre Brunante. Non, ce n'est pas celui-là.
Non, ce n'est pas celui-là. Non. C'est Sous le sable.
Sous le sable. Ah oui, d'accord.
Qui est une sorte de film dramatique, un peu polar.
Très bien, Pierre Vernier. Et je voudrais signaler également la disparition d'un autre grand comédien, mais aussi chanteur américain, Kris Kristofferson, qui nous a quittés il y a une dizaine de jours. Et Kris Kristofferson, qui est à l'honneur dans l'actualité d'ailleurs du DVD, du Blu-ray, avec l'apparition d'un de ses meilleurs films, Le Convoi de Sam Mekinpa, qui sort. Alors, il tenait le premier rôle aux côtés d'Ali McGraw dans ce film. Et Kris Kristofferson, qui je crois a été un temps le compagnon de Barbara Streisand. Et puis, pour moi, il restera quand même absolument splendide dans un chef-d'œuvre du cinéma américain, La Porte du Paradis de Michael Cimino. Voilà. Donc, il tient le rôle principal.
Voilà, donc...
Donc, Pierre Vernier, peut-être le dernier de la bande à Belmondo, finalement. Peut-être qu'on pourrait... Il y a peut-être Françoise Fabian de cette génération aussi. Mais voilà, mais je crois que voilà, c'est... On est quand même triste parce qu'effectivement, c'est toute une génération qu'on a aimée hein, qui disparaît.
Tout à fait, c'est des grandes figures qui ont marqué le cinéma français. Ouais. Et voilà, donc au fur et à mesure, forcément, elles disparaissent. Et bon, ouais. C'est vrai que c'est une grosse perte en tout cas pour le 7e art. Eh bien, on va partir en musique. Alors peut-être qu'à l'occasion, on vous passera peut-être la musique, pourquoi pas du professionnel ou du guignolo d'ailleurs.
Oui, finalement, on y pensera, on essaiera d'y penser la semaine prochaine si on revient du festival. Je ne sais pas dans quel état, mais bon, on verra ça.
Oui. Alors, on va débuter en musique, comme d'habitude, hein, dans Cinéscopie, avec en fait la musique d'une mini-série. Musicalement, c'est quand même incontournable, en tout cas dans la carrière de ce compositeur qu'on affectionne particulièrement. Hein. On espère peut-être qu'un jour il y aura un petit peu à l'image de ce concert hommage à James Horner, qu'il y aura un concert concernant Jerry Goldsmith.
Ah.
Mais bon, pour l'instant.
Ah oui, ça on aimerait bien, oui.
Bah oui, oui. Ouais. Avec peut-être une grande formation.
Ah oui, mais il le mérite. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de voir Jerry Goldsmith à deux reprises avec le London Symphony Orchestra et l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Et à chaque fois, c'était magique. Hein. Et, ces grands compositeurs méritent qu'on s'attarde et qu'on fasse découvrir ou redécouvrir leur musique.
Et, ben oui. Et donc là, cette mini-série, on y retrouvait Anthony Quayle, David Warner, Peter Strauss, Peter O'Toole, ce n'est autre que Masada.
Ah oui, c'était un événement à l'époque, parce qu'il y avait de gros moyens engagés sur cette série, en effet.
Et donc là, on va écouter, alors, pas l'enregistrement original, mais un réenregistrement par nos amis de chez Silvascreen. On retrouve des directeurs d'orchestre, mais qui souvent sont soit à la baguette, soit aussi en tant que producteurs sur d'autres projets, comme James Fitzpatrick, Nick Rain, Bennett Alwyn, Paul Batman, qui vont diriger l'orchestre philharmonique de la ville de Prague. Et donc, on va écouter cette ouverture de Masada, qui a été souvent présente lors des concerts de Jerry Goldsmith. En tout cas un thème qui était souvent présent. Ça faisait partie quand même de ses plus belles musiques de film. Hein.
Ça lui tenait à cœur. C'est un projet qu'il a recherché parce qu'en fait, Jerry Goldsmith, c'est pas un secret, était juif. Donc, c'est vrai que le siège de Masada, ce sujet lui était évidemment assez cher à son cœur, et donc il a composé, comme tu viens de le dire, une de ses meilleures musiques pour cette série.
Oui. Et donc on part donc en fanfare, vous allez voir, gros travail mélodiquement et aussi au niveau des cuivres et des percussions, comme à l'accoutumée chez Goldsmith. Allez, on s'écoute Masada et on se retrouve pour la première rubrique consacrée à la vidéo tout de suite après.
Thank you.
Louis Vidéo.
Musique de James Horner pour cette rubrique vidéo. On ne s'en lasse pas. Oui, la rubrique vidéo, l'actualité du support physique, DVD, Blu-ray, Steelbook, c'est sur RTF tous les lundis. Enfin, quand on n'est pas malade, bien sûr, hein, parce que bon, c'est bon, des imprévus comme ça. Oui, alors il y a des choses intéressantes quand même qui sortent, qui sont dans l'actualité. Alors il y a une petite promotion Artus. Il y a quelques jours, je ne sais pas s'ils la font toujours. C'était chez, allez, on va pas se le cacher, c'était chez Leclerc à Limoges. Et dans cette promotion Artus, on pouvait retrouver le film tchèque Morgiana, ainsi que le giallo italien le parfum de la dame en noir, et pour 6€ pièce. Donc 6€ pour une très belle édition collector de chez Artus. Franchement, ça vaut le détour. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour vers cette enseigne. Ils en ont peut-être encore. Voilà. Alors les sorties DVD Blu-ray, je vais d'abord aller vers un label spécialisé dans l'édition de films de genre. Et ce label, c'est le bien nommé Le Chat qui fume. Leurs dernières nouveautés sont désormais disponibles à l'achat sur leur site. Vous pouvez en tout cas les précommander, puisque je crois que ce sont des galettes qui seront distribuées à partir du mois de décembre. Alors, vous pouvez les précommander, vous pouvez y aller, parce que souvent ce sont des éditions limitées, donc il faut pas trop tarder. Alors je vous avais parlé notamment d'un Mondo, un film Mondo, Les Négriers, et c'est un film un petit peu polémique à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs, et qui vous est proposé dans une version tout à fait complète, puisque vous y retrouverez les trois montages, le montage intégral et qui dure 2h15, le montage italien et le montage français. Alors le montage français, lui, dure 1h15, on a perdu 1 heure de film, hein. Mais alors ça nous est proposé comme dans en Blu-ray standard, mais également en ultra haute définition. Donc si vous voulez retrouver ce film, n'hésitez pas, c'est vraiment assez passionnant, et c'est un film clé, hein, de ce sous-genre du cinéma d'exploitation qu'on a appelé le film Mondo, qui avait été mis à l'honneur avec le film Mondo Canet dans les années 60, un film qui avait été projeté au Festival de Cannes. Alors, Le Chat qui fume nous propose également un polar italien, Provincia Violenta, ce qu'on doit traduire certainement par province violente. Alors ça, c'est une petite série B quand même. J'avoue que je ne connais pas le film. C'est peut-être pas quand même le meilleur film italien quand même, hein. Le meilleur film de la sélection en tout cas. Mais enfin, voilà, si vous êtes un complétiste, si vous aimez vraiment le polar italien, vous pourrez vous procurer ce film vraiment très rare, réalisé, me semble-t-il, par Andrea Bianchi. Mais alors surtout, voilà, le chat qui fume, c'est fait une spécialité d'éditer les gialli. Gialli, c'est le pluriel de giallo, ces thrillers italiens qui allient la violence et l'érotisme, et qui sont bien souvent filmés de façon baroque, puisque ils ont été mis à l'honneur par Mario Bava avec 6 femmes pour l'assassin et la fille qui en savait trop, puis par la suite avec Dario Argento avec son film L'oiseau au plumage de cristal. Mise en scène baroque, meurtre sadique, soupçon d'érotisme, c'est voilà ce qui définit vraiment le giallo. Et dans cette nouvelle fournée Le Chat qui fume, il y en a deux. Tout d'abord, Le sourire de la hyène de Silvio Amadio, qui est un giallo de bonne facture, et je pense que vous pouvez y aller tête baissée. En ce qui me concerne, c'est ce que je ferai, puisque je suis assez preneur de giallo. Et puis un giallo, alors là, complètement délirant, le bien nommé Delirio Caldo, est un film de Renato Polselli, un film complètement fou. Renato Polselli filme souvent en dépit du bon sens. Sa seule règle, c'est de montrer le plus de violence et le plus de sexe possible. Et donc Delirio Caldo fait partie de ces films déviants qu'il faut découvrir. À chaque fois dans des copies, le Chaki Film s'est fait une spécialité d'offrir des copies vraiment nickel chrome à chaque fois. Donc vous pouvez vraiment voir ces films bien oubliés bien souvent, mais les redécouvrir dans des versions vraiment optimales. Moi, je vous conseille personnellement de vous procurer ces deux films. Les adeptes de Mario Bava, je vous parlais de Mario Bava à l'instant. Mario Bava, il est surtout connu pour ses thrillers, ses films fantastiques. On se souvient notamment de La Baie Sanglante ou encore de Diabolique. Mais il a réalisé une comédie dans les années 60. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui est à l'origine du projet. Ça s'appelle Une nuit mouvementée. Et c'est un peu comme dans Rashomon, me semble-t-il, c'est le même événement raconté selon le point de vue, les différents points de vue des personnages. Voilà, une nuit mouvementée, voilà, une comédie très 60s, très haute en couleur, à découvrir pour vraiment les fans de Mario Bava. Et puis alors, un film d'horreur intitulé, je crois, lors de sa sortie Alien 2, mais bon, qui n'entretient qu'un très très lointain rapport avec le film de Ridley Scott. Ça s'appelle Le Monstre Attaque. Et bah, c'est une zèderie, il faut bien le dire, hein. Mais là aussi, dans une belle édition collector, et c'est l'occasion de découvrir un film tout de même assez mauvais, mais très symptomatique de la manière dont les Italiens s'emparaient des succès pour exploiter jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, un filon juteux, comme le film de terreur extraterrestre. Voilà, donc Le Monstre Attaque, qui fait partie de cette sélection. Et puis enfin, Nightmare Concert. Ça, c'est un film de Lucio Fulci, c'est un de ses derniers films, un film un petit peu testament. C'est pas un très grand film, mais ça permet vraiment de retrouver Lucio Fulci. Je pense qu'on est tous un petit peu nostalgiques de ce cinéma gore des années 70-80, dont Fulci a été le chantre, notamment au travers de sa trilogie Frayeur, L'Au-delà, et L'Enfer des zombies, également La maison près du cimetière. Voilà, des films qui avaient quand même marqué les spectateurs en leur temps. Et puis je rajouterai aussi L'Éventreur de New York, et qui est un film assez craspec également, mais plutôt quand même bien réalisé. Voilà, donc ça c'est les nouveautés chez Le Chat qui Fume. Je rajoute que Le Chat qui Fume distribue également un autre label, je crois que c'est MDL Édition, et deux films nous sont proposés. Ce sont deux films britanniques très intéressants. Tout d'abord, un polar avec Donald Sutherland, qui nous a quitté lui aussi il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle La Disparition, et c'est un film qui avait aussi d'ailleurs un peu disparu de la circulation, et ça mérite d'être redécouvert, ce film de tueur à gages, La Disparition. Et puis un film fantastique, Asphyx, dont le titre français était L'Esprit de la Mort. Voilà, un film fantastique, un peu dans l'esprit des films de la Hammer, mais peut-être en un peu plus spectaculaire. Donc je vous convie à aller sur le site du Chat qui Fume, car malheureusement les éditions du Chat qui Fume ne sont disponibles que sur leur site ou dans quelques très rares magasins en France, notamment à Paris et à Lyon. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de découvrir ces films. Alors, dans les nouveautés, dans nos bacs, il y a quelques films très intéressants à redécouvrir. Et je ne sais pas, Laurent, si tu en as parlé la semaine dernière, mais enfin, j'y reviens si ce n'a pas été le cas. Un des meilleurs films de Luc Besson, qui paraît chez Gaumont Vidéo, c'est Nikita. Nikita, avec la très belle Anne Parillo, à ses côtés Checky Cario et Jean-Hugues Anglade. L'histoire d'une jeune délinquante transformée par les services secrets en espionne à la solde de l'État. C'est un film d'espionnage parfaitement maîtrisé. D'ailleurs, d'ailleurs, le film a eu un pas mal de succès et il y a même eu une série télé, une série dérivée de ce film Nikita. Nikita, décidément, assez à l'aise finalement avec les films d'espionnage, puisque je me souviens qu'il avait un de ses derniers films, Anna, me semble-t-il, était pour moi une réussite, un des meilleurs films de l'année à l'époque. Voilà, donc moi je trouve que Luc Besson en mode espionnage, il est plutôt efficace.
Puis, oui, c'est vrai. Enfin, Nikita fait partie vraiment de ses grands succès. Oui. Et c'est un petit peu normal qu'il y ait une édition dédiée de haute volée. Parce que je crois qu'il y a une édition métal qui est sortie.
Une édition métal avec le film en ultra haute définition, en UHD.
Donc je vous conseille de vous le procurer assez urgemment, parce que ça a été un peu le rush pour le cinquième élément. Et en fait, je pense que pour le coup, on est parti pour la réédition des grands films de Besson. Donc c'est plutôt une bonne idée, en tout cas, ouais, de sortir des éditions qui sont à la hauteur, je dirais, de ce qu'attend le public aussi, hein, parce que c'est des films mythiques aujourd'hui. Et donc forcément, il y a une certaine nostalgie à les revoir, mais à les revoir, je dirais, sur un support de qualité, mais aussi esthétiquement, qui soit du niveau du film, en fait.
Voilà. Donc on espère en tout cas effectivement que Luc Besson reviendra également en forme au cinéma, puisque, me semble-t-il, il est annoncé sur une adaptation de Dracula, donc après Nosferatu, qui arrive au mois de décembre, eh bien, nous aurons droit à Dracula. Ah oui, tiens, juste, j'ai oublié un truc tout à l'heure en ouverture de l'émission, le petit coup de gueule traditionnel, parce que quand même...
en général, on a l'habitude de faire un petit coup de gueule dans chaque émission, voire des fois plusieurs.
Et oui, non mais alors ça concerne finalement les... J'aurais pu, mais là j'y pense, alors j'aurais pu en parler pendant la rubrique cinéma tout à l'heure, mais tout simplement, il y a un film qui est sorti mercredi, qui n'est à l'affiche dans aucune salle de la région, je dis bien aucune salle de la région.
Je vois ce que tu veux dire.
Et quand je dis la région, c'est-à-dire la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. Donc là, je n'incrimine pas forcément l'exploitant sur l'image. Mais évidemment, ce film, tu l'as deviné, c'est le film Terrifier 3 de Damien Léon, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une interdiction moins de 18 ans. Eh bien, figure-toi que ce film, qui est distribué dans un petit réseau de salles, est numéro 1 au box-office.
Oui, parce que, alors, tout simplement, il y a un gros buzz sur ce film sur les réseaux sociaux. Peut-être parce que il a hérité d'une interdiction au moins de 18 ans.
Je pense que ça fait sa pub.
C'est vrai qu'on ne peut pas, mais enfin, globalement, j'ai l'impression quand même, entre autres sur Limoges, sans trop m'avancer, que le cinéma de genre, et en particulier celui-ci, n'est pas véritablement la tasse de thé du réseau de cinéma unique qui est présent sur Limoges.
Après, ça peut se comprendre aussi dans la mesure où je pense que les exploitants de salles craignent moins les films en eux-mêmes que le public qui draine. Donc je pense que c'est peut-être... peut-être ça, mais bon.
Oui, mais alors après, voilà, je pense qu'on peut débattre, hein, parce que j'ai connu des séances assez houleuses, ouais, et qui n'avaient rien à voir avec le programme qui était projeté.
Bien. Donc, voilà. Donc revenons à l'actualité du film. Non, mais tout à fait. L'actualité du film avec... Alors là, voilà, bah, écoutez, c'est un film, oui, parce que bon, c'est un peu la nostalgie. C'est Le Ninja Blanc. Le Ninja Blanc qui est un film de Sam Firstenberg avec Michael Dudikoff. En fait, le titre original, c'est American Ninja 2, La Confrontation. Donc le film ressort en version intégrale chez MGM ESC Édition. Voilà, et il est accompagné d'un livret de 32 pages. Donc là aussi, il y a une édition collector avec une version VHS box. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une cassette VHS dans la main, ça c'est assez sympa. Et Le Ninja Blanc, c'est quand même, je pense, peut-être un des meilleurs films de ninja réalisé à l'époque, parce qu'il y en a eu toute une palanquée. C'est un film de 1987. À l'époque, c'est Canon Film qui avait produit à la chaîne toute une série de films de cet acabit. C'était pas forcément, c'était pas génial, il faut bien le dire. Voilà, et celui-là sort un petit peu du lot tout de même. Et c'est très typé années 80. Donc une édition relativement correcte. Voilà, donc l'image aurait pu être quand même un petit peu plus nettoyée, mieux nettoyée. Bon, ça c'est un peu dommage. Mais enfin, bon, voilà. Si on est un petit peu nostalgique de cette époque, on peut se procurer ce fameux ninja blanc. Voilà, donc des nouveautés chat qui fume, n'hésitez pas. Et puis Nikita de Luc Besson, bien sûr. Voilà pour ma sélection, pour aujourd'hui.
Alors, moi je vais vous parler de titres qui sont déjà sortis, mais comme on parle du chat qui fume, eh bien on va reparler à travers cette édition superbe, forcément qui aujourd'hui va être très difficile à trouver, mais alors à part si vous y mettez le prix, je pense. Hein, ce film de Georges Franju, réalisé en 59, déconseillé aux moins de 12 ans, avec Pierre Brasseur, Alida Valli, Edith Scob. La musique est signée Maurice Jarre, c'est Les yeux sans visage. Très belle édition du Chat qui fume, qui pour peut-être, je crois que c'est peut-être un de leurs premiers UHD, en tout cas de films de patrimoine. Et donc, il y a dans ce coffret, alors c'est quand même très très complet, donc l'UHD, la réédition du film en Blu-ray, des bonus, un DVD avec des courts-métrages, et donc c'est aussi une édition, enfin il y aura une édition disponible en édition combo, donc en fait avec beaucoup moins bien sûr de bonus. Pour le coup, dans ces bonus et dans ces, ce qui accompagne ce coffret, donc c'est ces six courts ou moyens métrages documentaires du cinéaste. Donc il y a, en passant par la Lorraine et autres courts métrages, inclus dans ce coffret un livre de 178 pages avec préface de Fabien Moreau, découpage intégral du film incluant les séquences coupées au montage et au tournage, des photos, des critiques, des crédits et une biofilmographie. Franchement,
c'est complet quand même.
C'est très 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 complet. Et on vous parle pas du film, parce que bon, le film, le pitch rapidement, mais après, c'est l'histoire d'un chirurgien qui tente de greffer un autre visage à sa fille entièrement défigurée dans un accident de voiture. Voilà, donc
très beau film.
Pour l'époque, maîtrise de l'univers totalement insolite. Vraiment, il y a une ambiance très très noire, une musique assez angoissante. Composé par Maurice Jarre, et la gestion progressive d'une ambiance très dérangeante qui porte au nu ce monument du cinéma fantastique français. Et je crois qu'il faut le souligner parce que ces moments-là ont été quand même relativement rares dans l'histoire du cinéma français. Donc franchement, c'est une très très belle édition, et si vous tombez ça et là peut-être sur un exemplaire, on ne sait jamais.
On ne sait jamais, mais bon.
je vous invite à la posséder pour orner votre vidéothèque, parce que là, c'est un bel objet.
Mais même la version combo est très réussie, un très beau visuel également. Donc, je pense que celle-ci sera beaucoup plus facilement disponible.
Je pense,
parce que l'édition collector avec le livre, là, je me demande si elle n'est pas déjà épuisée.
Je pense qu'elle est épuisée, mais ce que je disais, c'est que peut-être ça et là, vous pouvez avoir un exemplaire sur certains revendeurs, qui forcément sera la pièce maîtresse peut-être d'une vente assez onéreuse. Mais voilà, bon, il faut toujours des petites pièces comme ça, porteuses, pour attirer le chaland, comme on dit.
C'est vrai que je me suis procuré Les yeux sans visage, mais je n'ai pu me procurer que le combo, je n'ai pas l'édition collector, malheureusement.
Un thriller, on reste toujours dans un thriller, de Samuel Fuller, Dressé pour tuer, donc avec Christy McNichol, Paul Winfield, Burleaves, La musique est signée Ennio Morricone. Film, là aussi déconseillé aux moins de 12 ans, réalisé en 82. L'histoire d'une jeune comédienne qui recueille un chien après l'avoir accidentellement renversé, mais se rend vite compte que celui-ci a été dressé pour attaquer des personnes à la peau noire. Un film saisissant. Profondément antiraciste, pas forcément, qui alterne violence pure et réalisme, le tout saupoudré d'une pincée d'horreur et de fantastique, une œuvre aussi dérangeante qu'utile, magnifiquement portée, là encore, par la bande originale d'Ennio Morricone, parce que souvent, on dit que la musique de film n'est qu'un support, mais elle fait un film aussi, hein. On le voit. On a plein d'exemples à vous citer, la musique est indissociable du film. Après, c'est quand on réécoute les thèmes, on voit les images défiler. C'est
le compositeur de la musique est l'un des auteurs majeurs du film, tout à fait. Avec le scénariste et le réalisateur.
Enfin, du moins à l'époque, c'était un peu le cas. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui.
On est un peu chagrin parfois.
Moi, je suis un petit peu naïf, hein, mais bon. Une première, un film qui n'avait, je pense, de mémoire, pas eu l'opportunité de sortir sur support physique. Film français de 1972. Exclusivité enseigne pour un film de guerre de Jean-Max Causse et Roger Taverne. On y retrouvait Philippe Léotard, Roger Lumont, Estelle Blain, donc film de 72 français, ça se passe, on est à l'été 44, l'histoire d'un fils de collabo planqué dans un village qui se retrouve plongé au cœur du nettoyage du plateau du Vercors par les troupes allemandes. Donc le film s'intitule Le Franc-Tireur et c'est sorti au courant du mois de septembre, donc en exclu enseigne. Injustement d'ailleurs interdit de diffusion pendant 30 ans, ce film courageux qui montre sans détour ni jugement les résistants de la quasi dernière heure dans une démarche très clairement à l'encontre du fameux discours officiel stipulant que toute la France a résisté, pour exposer les événements d'un point de vue aussi humain que réaliste grâce à une réalisation fort juste et à une distribution parfaitement dans le ton. Film assez méconnu, en tout cas,
je n'ai pas
réellement vu sur le petit écran non plus. Donc ça vaut le détour. C'est Extra Lucide Film qui vous le propose, donc en édition combo, avec bien sûr quelques bonus, entre autres un entretien relativement récent avec le réalisateur Jean-Max Causse. Voilà.
Une belle initiative d'Extra Lucide, hein, qui publie toujours des films intéressants, méconnus, mais qui méritent à chaque fois vraiment d'être découverts.
Un petit classique,
oui.
Cinéma d'horreur.
Oui, on aime bien.
En 1989.
Ouais. Il y a des indices comme ça ici trouvés.
Voilà, déconseillé au moins de 12 ans aussi. Allez, on va. Alors, la musique.
Oui,
et alors ça va peut-être pas vous aider beaucoup, mais la musique a été composée par Mischa Segal.
Ça y est. Si, je l'ai.
En son temps, je crois qu'elle a été éditée chez Silvascreen aussi.
Ouais. Je vois.
C'est une nouvelle adaptation.
Et oui, parce qu'il y en a eu plusieurs.
Il y en a eu plusieurs.
C'est un grand succès.
Il y a même eu des comédies musicales.
Exact. On parle du même.
Donc film d'horreur
avec Robert l'acteur qui joue le rôle dans
Robert Englund
qui avait incarné Freddy.
Et oui et je crois qu'il surfait un petit peu sur le succès d'ailleurs de Freddy.
Et là on le retrouve dans Le Fantôme de l'Opéra.
Voilà, signé par Dwight Eichlittle.
Ouais, il paraît que c'est pas mal du tout. J'ai loupé ce film à l'époque.
Et oui. Et donc là, l'opportunité, c'est BQHL qui nous propose en haute définition. Alors, il y a eu une édition DVD qui est ressortie, Mais par contre, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que et on a une édition haute définition pour cette histoire de cette jeune soprano qui devient la favorite d'un mystérieux tueur caché dans les entrailles de l'Opéra de Londres.
Eh oui, oui. C'est vrai qu'il y a eu la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, bien sûr, et,
oui.
Et puis d'autres adaptations, notamment je me souviens d'une adaptation que j'avais bien aimée avec Oliver Reed, Phantom of Paradise de Brian De Palma, c'était finalement une sorte de dérivé, enfin ça racontait, c'était ça, le fantôme d'opéra. Dario Argento avait aussi proposé sa version, assez décevante d'ailleurs, la version de Dario Argento, j'ai quand même été très déçu, mais celle de Dwight Edge Little m'a l'air vraiment très bien. En plus, c'est un réalisateur, je trouve que c'est dommage qu'il aurait pu faire une carrière plus intéressante parce qu'il avait commis un Halloween, je sais plus si c'est le 4 ou le 5, qui était de, je crois que c'est le 4, qui était plutôt pas mal, de bonne facture. Donc là, j'ai envie de découvrir Robert Englund en fantôme de l'opéra.
Et puis bon, sans parler, bien sûr, des éditions de la Hammer.
Bien sûr. Ouais. Eh oui.
Je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, oui, si je l'avais dit que c'était BQHL, voilà. Donc c'est BQHL. Dispo. Alors c'est sorti il y a un petit moment quand même, hein, mais bon, il fallait en parler.
Oui.
Souvent BQHL, leur sortie est souvent décalée. C'est un peu dommage parce que là, pour le coup, on en parle, mais vraiment a posteriori de la sortie. Et c'est un petit peu dommage dans le sens que c'est un film assez marquant dans le registre. Alors, une petite, parce qu'on peut pas parler de nouveautés et de sorties sans parler de l'éditeur Sidonie. Et là, par contre, il n'y a pas de western.
C'est vrai que c'est le spécialiste du western.
Oui, et là, il nous propose un polar de l'année 80. Me semble-t-il, je crois que c'est l'un des derniers films de l'acteur.
Quelques indices, j'aime bien jouer avec toi là.
Oui. Alors, on y retrouve, allez, Eli Wallach. La musique est signée par un grand compositeur français, Michel Legrand, et Charles Bernstein.
Alors là, un film de 1980.
Oui.
Charles Bernstein et Michel Legrand.
Un polar.
Un polar. Ouais, alors là, j'avoue que je sèche un peu.
Alors, on a aussi Catherine Harold.
Merci, ça a beaucoup aidé. Fallait le préciser quand même.
Bah oui.
C'est important.
Je crois que c'est un indice qui peut vous aider fortement. Et le titre original du film s'appelle The Hunter.
Ah oui, non, alors je ne l'ai pas vu, non, je te laisse présenter le film.
Alors, le film est réalisé par Buzz Kulik.
Ah oui.
Et c'est Le Chasseur avec Steve McQueen.
Oh, bah oui, bah dis donc. Ça aurait commencé par Steve McQueen.
Ah bah oui.
Il est taquin.
Alors, forcément, une édition, là aussi, bah, au Cara, hein, une édition combo. Blu-ray et DVD avec bien sûr une présentation du film par l'incontournable Olivier Père. Dans une très très belle édition, tout simplement parce qu'il y a une restauration du Feu de Dieu. On touche vraiment la perfection pour ce chasseur. Donc on adhère, hein, totalement.
Totalement. Et puis c'est un film que j'ai un peu oublié, à redécouvrir. Je pense que c'est quand même un des meilleurs films de Steve McQueen. Donc je vais vite me dépêcher d'aller acquérir ce film, parce que j'ai peur que ça disparaisse vite. C'est l'éditeur, c'est qui? C'est Sidonie?
C'est Sidonie.
Peut-être
Sidonie.
Que.
Non. Alors après, souvent dans leurs éditions, alors je pense pas qu'on parle de Mediabook, hein, pour le coup.
D'accord.
C'est plus une édition combo, donc c'est un peu moins, je dirais, limité, on va dire. Et pour en terminer, c'est une trilogie. Une trilogie, alors moi, que j'apprécie particulièrement, et là c'est le troisième volet qui vient de sortir, et pour les fêtes, me semble-t-il qu'il y a le coffret intégral de cette trilogie là c'est un thriller. Alors pour vendre, hein, on est un peu dans la mouvance, si vous avez aimé l'adaptation d'Enrico Eco pour Le Nom de la Rose, eh bien là, c'est ce troisième volet qui s'intitule Melchior L'apothicaire, donc la partie 3, le glaive du bourreau, réalisé par Elmo Nuganen, film qui est d'origine estonienne, qui a été réalisé en 2022. On est en 1423 à Tallinn, un jeune apothicaire, également adjoint de la police, qui enquête sur une agression, mais se retrouve rapidement dans le viseur de l'Inquisition. Et donc, c'est baigné, bien sûr, dans une atmosphère sombre, incertaine, et parfois même à la limite du fantastique. Et ce troisième opus entraîne son personnage dans une aventure grave et tendue, au cours de laquelle rien ne lui sera épargné. Un thriller médiéval, riche en suspense et en retournement de situation, fondé sur une enquête mystérieuse et alambiquée, dont l'issue en surprendra plus d'un. Donc moi, je vous invite vraiment à découvrir, si vous ne connaissez pas cette série de films, eh bien, il faut découvrir de toute urgence. C'est proposé par Condor Entertainment. Et c'est déjà disponible. Et c'en est tout pour ma sélection de ce soir.
Très bien, merci Laurent pour cette sélection, encore une fois, éclectique. Vous voyez, vous avez le choix des armes. Ça me fait penser d'ailleurs que le label discographique Music Box vient de publier la musique de ce film, Le Choix des Armes, musique de Philippe Sard. Et c'est d'ailleurs un très beau disque sur lequel vous retrouverez également la musique de Garçon, de Claude Sauté. Il y avait Yves Montand, ce film.
Et au passage, d'ailleurs, Le Choix des Armes, qui vient d'avoir une édition Blu-ray.
Ah.
Alors chiche, hein, parce qu'on est dans une collection, vous pouvez vous le procurer peut-être dans une offre d'ailleurs, dans certaines enseignes, donc ça vaut le détour si vous voulez revoir donc ce film Le Choix des Armes. Alors ce n'est pas le cas par contre de Garçon, hein.
Non, voilà. Et Le Choix des Armes, donc, il paraît en compact disque chez Music Box et donc en Blu-ray dans une belle édition. Alors, c'est vrai qu'on se souvient de ce polar parce que, bon, il y a ce trio d'acteurs, Depardieu, Montand et Catherine Deneuve, qui étaient au sommet à l'époque. Hein. Voilà, donc, à redécouvrir. Mon cher Laurent, petite pause musicale maintenant.
Oui.
Nous sommes en direct, il est 21h36 à la pendule de RTF.
Alors, une petite surprise d'ailleurs.
Oui.
Alors, je vais peut-être vous parler juste du titre, je ne vous en dis pas plus. Mmh. Alors, il y a un album qui est sorti. Alors, vous savez qu'on est quand même assez fan aussi de musique jazz, hein, mais du classique aussi. Mmh. Et donc, un album vient de sortir qui s'intitule Piano Forte, et qui rassemble quatre pianistes. Et donc, ces pianistes sont Eric Lignini, Boran Z, Pierre de Bettmann et Baptiste Trottignon, des grandes figures montantes de la musique jazz. Et donc, ces quatre pianistes, les plus talentueux, qui se réunissent et forment donc cet album Piano Forte. Et donc, quatre grands pianistes qui se partagent deux pianos, c'est important, et deux Fender Rhodes, ce célèbre piano qui a été inventé donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par l'inventeur ni plus ni moins qui porte son nom, Rhodes.
Ah oui.
Et donc, pour une rencontre inédite, et on ne peut plus aller chante. Et donc, on va vous proposer, dans un premier temps, un titre.
Tu m'intrigues.
qui s'intitule Cornfield Chase, mais je n'en dis pas plus.
Ah.
Vous allez découvrir, je pense que ça va vous rappeler très certainement
quelque chose
de très très connu qui a un franc succès, même encore. Hein, et puis, bon, comme le titre est assez court, alors c'est une adaptation, hein, mais de qualité. Je vous dirais juste vraiment de prêter l'oreille sur l'orchestration qui est vraiment très dépouillée, mais je dirais l'association piano et Fender Rhodes est vraiment extraordinaire. Ça donne une nouvelle dimension, en tout cas une nouvelle approche de ce thème très connu, mais je n'en dis pas plus. Et puis comme c'est assez court, eh bien, je vous propose un petit extrait de jazz, vous verrez, qui est vraiment magnifique.
Bon, voilà. Eh bien, nous sommes alléchés par cette proposition. Eh bien, nous allons découvrir un extrait de l'album Piano Forte avec ses quatre pointures de la musique de jazz d'aujourd'hui.
Les films de la semaine, ce soir.
Eh bien, ce soir, nous parlerons du film Emmanuel, avec Noémie Merlant, Drone, un film d'anticipation français, Vivre, mourir, renaître, avec Victor Belmondo. On dira un mot également de L'amour fou, qui est L'amour fou, L'amour ouf, le film de Gilles Lelouch, projeté hier en avant-première à Limoges. Et puis, Laurent, tu voulais nous parler aussi d'un, peut-être d'un autre film, à part Drone et Vivre. Non, monsieur, je crois que on est bon, on a quand même pas mal de choses à.
Oui, non, sinon on pourrait en parler toute la nuit. Hein,
on a
une telle réserve.
Oui, c'est ça. Il y a pas mal de
films. Oui, on a vu Le Dernier Roson, mais bon, voilà, tous ces films-là, on va vous en parler. Ouais. Alors, même peut-être pour ceux qui ne seront peut-être plus à l'affiche, mais bon, voilà, c'est que ce soir, on ne peut pas condenser. Nos visites dans les salles obscures pendant pas mal de jours. Donc
voilà, exactement. Alors on va commencer par, si tu veux bien, par Emmanuel, le film d'Audrey Diwan avec Noémie Merlant, Naomi Watts dans les rôles principaux. Alors, Emmanuel, oui, c'est la nouvelle adaptation du roman d'Emmanuel Arsan, qui avait déjà été adapté dans les années 70 par Juste Jacquin avec Sylvia Christel dans le rôle principal. Alors, ça avait d'ailleurs été un phénomène en 1974 lorsque le film est sorti, puisque le succès du film sera tel que le film restera à l'affiche de nombreuses années sur les Champs-Élysées. Voilà, un film érotique qui bénéficie aussi d'un moment particulier dans l'histoire. C'est le moment de la libération des mœurs, libération de la femme aussi. Alors, quoi qu'on ait dit que le film de Juste Jacquin était quand même un film pas forcément féministe, en fait, puisque le personnage d'Emmanuel, est le jouet de son mari, qui cherche à l'avoir assouvir ses propres fantasmes. Dans cette nouvelle version, eh bien, Emmanuel, au contraire, est le sujet de ses propres fantasmes. C'est elle qui décide de ce qu'elle veut. C'est une femme en quête d'épanouissement, en quête de plaisir. Va-t-elle l'obtenir? Nous ne le saurons qu'à la fin du film. Voilà, donc c'est cette nouvelle approche, évidemment, plus résolument féministe, que Rebecca Zlotowski et Audrey Diwan ont choisi d'apporter à ce personnage. Voilà, alors, pourquoi pas, le propos est intéressant, je dirais que le problème du film, finalement, n'est pas là. Le problème du film est, je dirais, en fait, le film n'est pas nul. On peut pas dire que le film soit nul. Peut-on dire que le film est mauvais. Mais je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Ce qui est intéressant, quand même, dans ce film, outre son discours, effectivement, actualisé, c'est peut-être sa dimension thriller. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand même, d'assister à une sorte de thriller, puisque l'ambiance du film, de par sa photographie, de par le rythme du film, de par sa musique également, est assez inconfortable. C'est-à-dire qu'on, c'est assez angoissant. On pourrait se croire même dans un film de Roman Polanski façon Le Locataire, hein, quelque chose comme ça. Il y a quelques plans comme ça à la lisière un peu presque du fantastique. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là dans le film. Voilà. Donc, du coup, on est plus effectivement dans un objet qui met l'émotion à distance, la sensualité aussi, du coup. Et on est. Qu'on serait dans un film érotique. C'est-à-dire un film érotique, pour Audrey Diwan, c'est plutôt plus ce qu'on voit pas que ce qu'on voit. Donc, d'accord, pourquoi pas, effectivement. L'érotisme, effectivement, contrairement à la pornographie, c'est de suggérer. D'accord. Sauf que là, d'érotisme, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y en a un petit peu au début.
C'est assez cérébral.
C'est cérébral. C'est cérébral.
Mais distant.
Oui.
Ce qui fait que on a du mal à rentrer dans le film.
C'est un peu à l'image de la musique de Eva et Sacha Galperine, c'est-à-dire que c'est une musique assez froide, très pratiquement pas de mélodie, ce sont plutôt des motifs. Ils ont utilisé l'harmonica de verre aussi, je crois, pour dans l'instrumentation, ce qui fait qu'on a une musique plutôt froide, plutôt même angoissante, hein, je trouve. Et à aucun moment dans le film, on ne va quitter cette ambiance. C'est-à-dire que c'est un peu à l'image même de Noémie Merlan, qui est plutôt bien dans le rôle, mais enfin, elle va rester globalement assez erratique quand même pendant tout le film, jusqu'à ce dernier plan, bon, qui fait quand même m'a fait quand même sourire, enfin bon. Alors, donc on a un film, c'était donc finalement qui ennuie profondément. Moi, je me suis ennuyé. Ah oui, j'ai l'impression que le film durait 3 heures.
Parce que tu parlais de polar, mais c'est un polar sous l'exomil.
C'est effectivement. Alors, on en est là. Alors, effectivement, alors si on est dans cette ambiance un petit peu désincarnée, paradoxalement, c'est en grande partie, je pense, dû effectivement au choix de mise en scène, à la photographie et à la musique. Je crois qu'il faut arrêter de faire appel à Eva et Sacha Galperine, qui pour moi sont de très mauvais compositeurs. Aucune des musiques qu'ils ont composées, pour moi, ne valent le détour. Elles fonctionnent relativement bien dans le contexte du film, mais guère plus. Écoute, moi je sais pas, enfin quand j'ai vu le film Emmanuel, j'avais comme la mélodie de Pierre Bachelet, et puis quand même Sylvia Christel, on peut la critiquer Sylvia Christel, mais moi je pense qu'Emmanuel n'est pas un film misogyne et je pense que il est plus féministe qu'on ne le pense. Et en plus, je trouve que Sylvia Christel on l'a trouvée transparente, mais si on regarde bien son visage, on voit qu'il y a dans son regard, il y a quelque chose de mélancolique, il y a une mélancolie dans son regard qui n'est peut-être pas étranger au succès d'ailleurs de l'incarnation de ce personnage
On en a l'impression que dans le film, dans ce remake, si on peut appeler ça un remake, que Noémie Merlan est complètement absente du film, en fait. Parce que physiquement, elle est présente, mais on ne peut pas dire que dans l'expression même de son personnage, eh bien, il y ait véritablement une réelle profondeur.
Oui, et puis... Bon, peut-être qu'elle est peut-être absente à elle-même, en même temps, on peut se dire ça, finalement.
Oui,
du personnage.
Je pense, oui. Ouais.
Parce que c'est quelqu'un qui, en même temps, qui veut échapper, parce que le rapport de dominant-dominé, il existe quand même dans le film, parce qu'elle-même n'est pas, ne s'abstrait pas d'une certaine forme de domination. Elle est dominée déjà par ses patrons, puisque elle doit faire un rapport sévère sur la directrice d'un établissement, d'un hôtel de luxe à Hong Kong. Oui. Et en fait, la direction veut éliminer la directrice de cet établissement, jouée par Naomi Watts. Et donc, en fait, une sorte de chantage est exercé sur Emmanuel. C'est-à-dire qu'en gros, vous trouvez des arguments pour l'éjecter de son poste, ou alors c'est vous qui allez sauter, en gros, si je puis dire. Donc il y a une dimension économique qui est intéressante dans le film, finalement, ce rapport de domination, de lutte des classes aussi, puisqu'il y a aussi le personnage de l'escort girl aussi qu'on voit dans le film.
Oui, non, mais ça peut être très intéressant, à part que dans le film c'est anecdotique, je dirais.
Oui,
en tout cas, en valeur,
c'est ça. Bon, alors, donc, effectivement, je crois que quand on a aimé Emmanuel, notamment Sylvia Christel, parce que c'est vrai que Sylvia Christel, elle a souvent regretté qu'on ait fini par confondre son personnage avec elle-même, en fait. Hein, c'est que, d'ailleurs, elle a eu du mal à faire carrière, parce que elle était tout le temps ramenée à Emmanuel, hein, Sylvia Christel. Elle a vraiment, pourtant elle a tourné quand même avec beaucoup de réalisateurs, notamment Claude Chabrol, hein, elle a essayé de sortir un petit peu des sentiers battus, mais à chaque fois elle était quand même ramenée à Emmanuel. Il faut dire que c'est vrai que voilà. Alors, en plus, bon, Emmanuel, le film de Jules Jacquin, bon, c'est vrai que c'est pas un chef-d'œuvre. Enfin, il est quand même, quand on le voit aujourd'hui, quand on vient de voir le film de Drodi Wan, il n'y a pas photo pour moi. J'ai l'impression que le film de Jules Jacquin est un chef-d'œuvre du cinéma à côté. Ben, c'est pas pour amoindrir, je veux dire, les qualités du film d'Audrey Diwan, il y en a, hein, on peut pas dire que bon, là, je veux dire, là, il y a quand même une belle photographie, hein, mais.
Je cherche quand même. Hein,
tu cherches. Non, et puis je trouve qu'en plus de ça, c'est quand même là, dans ce film, on a l'impression que tout a été tourné dans le 13e arrondissement, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont pas allés à Hong Kong. C'est-à-dire quand elle sort de l'hôtel, alors quand même, au bout des trois quarts du film, quand même, elle sort de l'hôtel.
Oui, parce qu'on est quand même assez impatient, quand même.
Hein, voilà, on se dit un peu comme elle, peut-être, d'ailleurs, je sais pas. Elle sort du film, alors elle cherche un endroit apparemment un peu interdit, connu uniquement par les connaisseurs. Voilà. Il faut être presque coopté pour arriver dans cet établissement, qui était en fait une sorte de salle de jeu clandestine. Bon, pas trop. On sait, bon. Mais alors, voilà, alors. Elle y va, bon. Se passe pas grand chose quand même. Puis en plus.
C'est un peu le problème de ce film, c'est qu'il se passe pas grand chose. de bout en bout.
Et oui.
Donc, il n'y a pas véritablement de ressort dramatique, lorsque le film est en permanence sous perfusion de l'exomil, on n'est pas là pour descendre le film, mais franchement, enfin, le film est quand même très mauvais, très très mauvais.
Ben oui, mais non, faut bien dire, c'est mal. Bon, et puis en termes d'érotisme, bon, qu'est-ce qu'on a, une séquence d'épilation dans une baignoire.
Oui.
Bon, si la scène de la masturbation, qui est quand même meilleure encore dans l'original, mais bon, voilà. Bon, je vous conseille quand même, vous l'avez compris, de ne pas aller voir cette nouvelle version d'Emmanuel. Je crois qu'on peut s'en passer.
Globalement, je pense que vous serez déçus.
Voilà, et autant se refaire l'original de Juste Chacun, et surtout Emmanuel II, l'Antivierge, que je trouve encore bien meilleur, et que je vous conseille très fortement, avec en plus de ça, une musique sublime de Francis Lai. Donc, toutes affaires cessantes, Emmanuel et Emmanuel II, l'Antivierge. Voilà, là par contre, vous avez voilà, des classiques de l'érotisme. Plutôt que de voir cette version atone et désespérante d'Emmanuel, faut bien le dire. Si c'est ça l'érotisme du 21e siècle, eh bien, c'est un peu triste.
Oui, c'est peut-être une photographie d'ailleurs.
Ouais, je sais pas, mais c'est un petit peu curieux. Et puis, autant se faire un bon petit Marc Dorcel. Hein. Oula, les choix, c'est les ligues.
au moins, vous ne serez pas déçus.
Non, mais je ne voudrais pas déformer mon propos, si je puis dire.
Pourtant, Marie Dorcel, c'est vraiment une référence. Hein.
Oui, bien sûr, mais bon. Je pense que on est quand même loin de, comme de, voilà, de, du discours d'Audrey Diwan dans cet Emmanuel.
C'est clair.
Voilà. Ouais. Alors, mon cher Laurent.
Et si on changeait de sujet?
Changeons de sujet, tout à fait. Avec peut-être des films peut-être plus intéressants, quand même. Alors, si nous prenions de la hauteur, non, je ne sais pas.
Là, il n'y a pas photo. C'est clair que. on va changer de braquet.
Ouais.
On est largement au-dessus du film Emmanuel, même si bon, c'est pas forcément très comparable. Mais en tout cas, cinématographiquement parlant, on peut dire que quand même, on a pris une sacrée hauteur, mais aussi tant, on va dire, physique, mais aussi en termes qualitatifs. Donc, on va parler d'un film français de Simon Buisson. Avec Marion Barbeau, Eugénie de Rouen et Stéphane Crépon. Film qu'on peut peut-être associer un polar, je dirais peut-être un petit peu futuriste. Mmh. Je n'en dis pas plus parce que c'est difficile de se parler de ce film sans spoiler, parce que c'est vraiment la substantifique moelle du film. Donc,
si on donne le titre, on aura peut-être une idée.
Ben, peut-être. le film s'intitule Drone. Voilà.
Ah.
Alors, vous ne serez pas surpris quand vous verrez le film. Hein. C'est vrai qu'on parle de drone.
Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire.
C'est tout ce qu'on peut dire.
Maintenant, nous allons changer de film après avoir évoqué.
donc, Alors, si on parle, si vous connaissez la série Stalk, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Simon Bouisson a choisi pour ses débuts sur grand écran, parce que c'est son premier long métrage, de creuser doublement le thème du voyeurisme. Son héroïne, l'histoire d'une, en fait, une étudiante en architecture, donc jouée par Marion Barbeau, qui a joué dans le film Encore.
Oui, le film de Cédric Clapiche.
Tout à fait. Encore, comme un corps.
Hein. Oui.
Pas encore à nouveau. Et donc, Marion Barbeau, qui est vraiment impeccable dans le film, elle supporte le film, parce que déjà, il y a assez peu d'acteurs, hein, quand même. Hein, donc, et donc, qui travaille secrètement comme... sur le net pour un petit peu gagner sa vie, hein, et donc un jour, en rentrant chez elle, elle découvre qu'un drone déboule régulièrement pour scruter chacun de ses actes, et donc forcément, eh bien, ça lui pose question, et puis bon, il y a quand même une certaine inquiétude, les questions qu'on pourrait se poser, qui se cache derrière ce drone, un inconnu qui lui veut peut-être du bien, ou un pervers qui veut en faire sa proie, Bouisson a pour lui un réel talent dans l'art de faire monter la tension, parce que elle est, si vous voulez, progressive, cette tension, elle va crescendo, mais il prend son temps, parce que le film flirte avec les 2 heures, donc vraiment, on a vraiment le temps d'installer une tension qui est vraiment, je dirais, saisissante, hein. Elle vous prend aux tripes, et puis même si au départ, vous dites, bah voilà, oui, d'accord, il sait, trouver les arguments pour véritablement vous captiver et vous intéresser quand même à cette histoire à travers, donc, tous les instants que va vivre l'héroïne qui, elle aussi, progressivement, va monter en tension, elle aussi, et donc on va la suivre et on va vraiment rentrer dans ce thriller qui a vraiment... un potentiel réel, vraiment un film incarné aussi par un rôle qu'on découvre, alors là c'est un peu la surprise, d'un professeur d'architecture qui est joué par Cédric Kahn et qui lui aussi apporte, je dirais, le côté masculin assouvi, et aussi peut-être la part aussi de toxicité, parce que le film quand même flirte beaucoup avec donc la perversion, l'aspect toxique des personnes qu'on peut rencontrer, voilà, et la méfiance aussi, parce qu'en fait c'est aussi ce que veut dire ce film là une méfiance, méfiance envers tous les personnages qui tournent autour, en fait, de l'actrice principale. Donc véritablement, moi je vais vous dire franchement, le film commence déjà avec un large travelling de nuit de la ville, et donc on pense à Michael Mann, mais on pense aussi à De Palma avec Body Double. On est vraiment déjà très captivé et assez curieux.
Oui, c'est un sujet que De Palma aurait pu traiter, hein.
Tout à fait.
Oui.
Et assez curieux de voir un petit peu ce que la suite, en fait, hein. On a envie de connaître le final. Alors, certes, il y a ça et là, peut-être quelques maladresses, surtout sur le final, parce que voilà, on est peut-être un peu déçu par. On s'attendait peut-être à beaucoup plus, beaucoup plus grandiose. Mais franchement, le fait d'embarquer le spectateur est aussi facilement, je dirais qu'on flirte aussi avec le film à suspense. Et le grand maître du suspense, c'est Hitchcock. Et donc, il y a quand même cette part hitchcockienne dans le film. Donc, franchement, on est vraiment magnétisé. Parce qu'en fait, il y a le charme de l'actrice, Mais aussi, c'est aussi magnétique par rapport à, je dirais, l'histoire, le jeu d'acteur, la mise en image, parce que 80% de films se fait en vue nocturne, parce que c'est là où tout se passe, en fait. C'est la nuit. Et donc, forcément, ça apporte un petit peu plus de suspense et d'angoisse à cette histoire. Donc, franchement, moi, je vous invite véritablement à découvrir ce premier long qui s'intitule Drone. Il est encore à l'affiche. Je suis pas sûr qu'il reste sur les écrans à partir de mercredi. Donc vraiment aller découvrir cette petite pépite.
Eh bien, tu nous as vraiment donné envie effectivement de la découvrir. Donc Drone, avoir toutes affaires cessantes et moi je sais que je vais y aller très rapidement. Parce que je suis très très intrigué par ce que tu viens de nous dire, mon cher Laurent. Alors, on va terminer avec un autre film. Alors là aussi, une belle découverte avec un Victor Belmondo, assez éblouissant d'ailleurs.
Oui, film là encore français de Gaël Morel. Alors, film forcément un petit peu plus médiatisé, hein, parce que je pense que vous avez certainement dû entendre une chronique donc sur ce film. On peut parler peut-être du pitch, parce que ça se passe dans les années 90, hein, c'est important, parce que c'est aussi les années SIDA. L'histoire d'un jeune couple, l'histoire d'un conducteur de métro et une sage-femme avec enfant qui rencontre un photographe, donc qui est joué par Victor Belmondo, dont le labo est situé juste à côté de chez eux et qui va ainsi mener à un triangle amoureux, puis au surgissement dévastateur donc du sida. Le cinéaste qu'on avait connu acteur chez André Téchiné en 94 avec Les Roseaux Sauvages, filme ses émotions comme si on les vivait pour la première fois et réussit. Alors, un mélodrame, mais c'est pas larmoyant. C'est vraiment un film traité avec justesse qui retrace vraiment cette époque-là qui était un petit peu compliquée, même si c'est l'avènement aussi de la trithérapie. Le sida était déjà connu, mais c'est vrai que à l'aube des années 90, il y avait déjà les premiers traitements qui arrivaient sur le marché. Je dirais que la première chose, moi, qui m'a frappé, je l'ai entendu après parce que j'ai vu le film quasiment dès sa sortie, c'est vraiment le magnétisme de Victor Belmondo et entre autres ce sosie de son grand-père qu'on a connu dans des grands classiques comme À bout de souffle. Il y a des plans, on a l'impression que Jean-Paul Belmondo est dans le film. Voilà. Je pense pas que ça soit vraiment une volonté du metteur en scène, mais franchement, on est scotché devant cette extrême ressemblance. Il n'y a pas que le physique, hein, parce qu'il y a aussi cette qualité du jeu d'acteur. Victor Belmondo, je le connaissais pas réellement. Je l'avais aperçu ça et là, mais franchement, j'avais plutôt un a priori à aller voir le film et aller voir l'acteur. Et franchement, j'ai été véritablement scotché. Alors, il n'y a pas que lui, hein, parce que l'actrice est vraiment superbe. Lou Lampros, qui est vraiment excellente aussi dans le film. Et alors, je ne sais pas si... je pense que c'est peut-être une volonté du metteur en scène de faire, parce que je vous parlais d'À bout de souffle, la nouvelle vague. Mais le film est en fait effeuillé musicalement par des grands thèmes de Delru. Ah. Et entre autres, un thème qui est vraiment sublime, qui est extrait en fait du film Chère Louise, qui est vraiment d'une mélancolie, une nostalgie extraordinaire, et qui apporte, au moment où en fait cette musique est utilisée, vraiment une dimension assez phénoménale, et qui propulse le film vraiment à des sommets. Alors, je ne vous dis pas plus, hein. Ça se passe en Italie, il y a une scène en Italie qui est vraiment magnifique, accompagné de la musique de Delru, on se dit véritablement comment on a pu passer à côté donc de ce genre de bande originale. Alors, nous, on connaissait, mais franchement, même quand on connaît la musique, et bien, ça apporte véritablement à ce film contemporain une dimension tout autre. Alors, on passe, la quatrième dimension, tellement véritablement ça apporte une homogénéité et puis une osmose entre tous ces personnages. Franchement, on adhère totalement à ce destin qui par moments est tragique, même si il y a une côté de joie, parce que à travers le titre qui amène la progression, vivre, mourir, renaître. Voilà, qui apporte un petit peu, le cheminement de ce long métrage. Mais franchement, on touche quand même la perfection à travers ce film de Gaël Morel. Donc vraiment, moi j'ai été scotché. Je vous le dis franchement, c'est du grand cinéma. Comme on l'aime, du grand cinéma français.
Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est aller voir ce film de Gaël Morel, Vivre, Mourir, Renaître, avec un beau casting et cette musique de Georges Delru, effectivement, qu'on aura plaisir à retrouver dans le contexte de ce film. Voilà. Et puis, juste un petit mot, parce que le film est passé hier en clôture des 9e rencontres cinématographiques de Limoges, mais on aura l'occasion de peut-être d'y revenir un peu plus longuement la semaine prochaine. Le nouveau film de Gilles Lellouche, L'amour ouf. Alors, l'histoire, c'est une histoire d'amour, en fait. Un peu classique, archi rebattu même. C'est une jeune fille, style première de la classe, qui tombe amoureuse d'un garçon plutôt voyou, le bad boy de service, voilà. C'est une histoire qui va nous être racontée sur une vingtaine d'années, c'est-à-dire que ça commence dans les années 80 et ça finit avec l'éclipse de 1999. Donc on est un petit peu, on est sur les périodes des années 80-90. C'est un film qui c'est un peu un patchwork de genre. C'est plutôt, à mon avis, d'abord un film, une sorte de thriller, un film de mafia quelque part, doublé d'un film romantique, bien sûr, parce que ça s'appelle L'amour ouf. Voilà, il y a le destin de ces deux personnages, destin évidemment qui sera contrarié. Et puis il y a aussi une dimension un peu comédie, voilà, quelques scènes de comédie. Et en fait, l'intérêt du film de Gilles Lellouche, au-delà d'une histoire vraiment archi rebattue, c'est la façon dont il va la raconter. Parce que c'est à la fois un film sur l'amour, mais c'est aussi une déclaration d'amour au cinéma. Et d'un point de vue formel, on voit que Gilles Lellouche se fait plaisir et du coup nous fait plaisir. Il est vraiment sincère dans cette démarche. En présentant le film, il a dit que c'était une déclaration d'amour au cinéma, et c'est vraiment ce que c'est. Je serai plus précis la semaine prochaine, mais on peut penser parfois au cinéma de Claude Lellouche, à celui de Nicolas Winding Refn, d'Abel Ferrara, pour le côté un petit peu film de mafia. Pour le côté film social, on peut penser à Ken Loach. Voilà, c'est une sorte de mix d'influences, mais il arrive à homogénéiser tout ça par la fougue de sa mise en scène. Il y a de très beaux mouvements d'appareil, c'est filmé en scope aussi, il y a une très très belle image, et un travail aussi assez intéressant sur la bande son. La musique composée par l'artiste américain Ion Bryan, et mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de chansons évidemment qui vont nous ancrer dans ces années 80-90, et même des musiques de films. Là aussi, donc on voit que finalement les réalisateurs d'aujourd'hui sont quelque part nostalgiques de la musique qui se faisait avant et qui nous manque. Alors là, notamment dans L'amour ouf, il y a une séquence vraiment incroyable. C'est la séquence, je vous en dis pas plus, mais c'est la séquence du braquage du fourgon. Et là, vous allez constater, musicalement, c'est top. C'est-à-dire qu'il y a un montage, un découpage de la séquence avec la musique qui est au top. Et la musique, c'est une musique préexistante. Il y a des percussions, du synthé, et tout d'un coup, alors moi je me dis mais c'est super, hein, c'est vachement bien, ça colle, c'est top, et la musique elle est vraiment sympa. Et puis je me dis mais je la connais. Mais oui, c'est la musique de John Carpenter pour New York 1997. Et dans le film, il y a d'autres passages comme ça. Il y a du Morricone, il y a du Hans Zimmer. Mais c'est amené comme ça, c'est par touche. C'est vraiment très très bien fait. Et au final, ben, on passe 2h40, parce que le film dure 2h40, comme une lettre à la poste. On est vraiment ébloui. Et alors évidemment, peut-être que voilà, quelques bémols peut-être sur le scénario, voilà, certains vont trouver ça peut-être un petit peu kitsch, un petit peu archi déjà vu, mais il y a la sincérité de Gilles Lelouch et il fait du cinéma et il le fait bien, donc moi je vous conseille d'aller voir ce film dès qu'il sort, c'est-à-dire ce mercredi, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors vous savez, une distribution incroyable hein, dans ce film, et ils sont tous très très bien, Adèle Exarchopoulos, François Civil, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Bouchez qui est vraiment formidable, Karim Leclou, Raphaël Quenard, Anthony Bajon, et puis les deux petits jeunes, Mallory Vanek et Malik Frika, qui sont vraiment excellents. Le film dure 2h40, les deux parties du film s'équilibrent hein, en termes de durée, je crois qu'on est à peu près 1h20 lorsque les deux personnages principaux sont ados, et 1h20 lorsqu'ils sont adultes. Voilà, on a un peu les... Voilà, mais je vous conseille ce film, L'amour ouf, c'est à partir de ce mercredi. Mon cher Laurent, une petite pause musicale avant de parler des films qui sortiront d'ailleurs ce mercredi.
Oui, donc on retourne en musique pour un film de 1999. Le titre du film, c'est Lover's Prayer, ou Premier Amour. Film donc qui a été réalisé par Revenge Anselmo avec Kirsten Dunst, Nathaniel Parker, Nick Stahl, Julie Waters, entre autres Geraldine James et James Fox. La musique, eh bien souvent on vous diffuse des musiques qui ont été réorchestrées par Joel McNeely, mais il ne faut pas oublier qu'il a été et qu'il est toujours compositeur de musique de film, et c'est lui qui a composé le score de ce film Premier Amour, et donc il est capable vraiment de très très bon, Joel McNeely.
Ah, c'est du très bon là.
Et donc là, on va vous proposer l'ouverture du thème de Lover's Prayer. L'histoire, parce que pour ceux qui connaissent pas l'histoire de ce film, ça se passe en Grande-Bretagne dans les années 1800, l'histoire d'un jeune garçon qui tombe amoureux d'une fille qui manipule ses prétendants plus âgés. Voilà. On écoute cela. Vous allez voir, c'est très intimiste hein, comme composition. C'est très, je dirais, très dépouillé aussi. Mais
très belle mélodie au piano, notamment.
Tout à fait. Donc, c'est très intimiste aussi. On peut penser par moments, en tout cas dans l'orchestration, à du John Barry. Voilà. Donc, on écoute cela et on se retrouve juste après pour vous annoncer quelles sont les sorties à partir de mercredi, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir sur vos écrans à Limoges mercredi. Tout de suite donc, Premier Amour, Joel McNeely.
très très belle musique de Joel McNeely pour ce film en costume, Lover's Prayer. Voilà, une musique que j'adore particulièrement. Et bien maintenant, c'est l'heure de vous parler des films qui seront à l'affiche à partir de mercredi. Alors vous savez déjà, il y en a un, c'est L'amour ouf de Gilles Lellouche, qui est d'ailleurs un film adapté d'un roman. D'ailleurs, c'est l'adaptation. Il y a une quinzaine d'années, Benoît Poulvord avait donné un livre à Gilles Lellouche en lui disant « Écoute, tu lis ce bouquin, tu vas voir, tu peux peut-être faire un super scénario. » Et voilà, bah 17 ans plus tard, le film existe, il est là, il arrive, c'est ce mercredi. Alors, mercredi, il y a aussi une grosse sortie, là c'est le blockbuster américain, un blockbuster d'horreur, puisque on va retrouver la suite de Smile, Smile 2, dans un film qui dure pratiquement 2 heures d'ailleurs. Hein, donc j'espère que le film sera intéressant.
Plus de 2 heures. Hein.
Plus de 2 heures même d'ailleurs.
On flirte avec les 2h15, 2h20.
Ah oui, quand même.
Ah oui, oui.
Bon, ah bah alors... Écoute, moi je suis quand même assez curieux de découvrir le film pour deux raisons. D'abord parce que je n'avais pas détesté le premier volet.
Oui, moi aussi.
Oui, surtout la première partie d'ailleurs.
C'est assez original.
Réussi, oui. Ouais. Et puis la comédienne qui joue dans ce deuxième épisode, je ne sais plus son nom, mais franchement, je l'adore. Je trouve qu'elle a énormément de charisme. Et rien que pour elle, bah, j'irai voir ce film parce que 2h20 en sa compagnie, bah, voilà, moi, je serai aux anges. Voilà, donc Smile 2 à partir de mercredi.
Tu parles de Rosemary DeWitt.
Eh oui, c'est ça. Ah ben écoute, si t'as son adresse et son téléphone.
Ouais, ça, oui, mais je te le donnerai hors antenne parce que je l'avais donné il y a quelque temps.
Tu as raison.
Donc, à partir de mercredi, donc on sera le 16 octobre, eh bien, on pourra voir un film d'aventure. Réalisé par Michel Fessler, c'est Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Voilà.
Oui, une sorte de documentaire animalier en fait. Enfin, c'est Bambi version live.
Voilà.
Avec des vrais animaux.
Ouais, voilà.
Je pense. Hein.
Oui, ouais, c'est ça. Alors il y a pas mal de sorties quand même. Hein,
ouais.
Autre sortie, c'est Le Monde à l'envers, donc une comédie de Nicolas Vanier, avec, là je pense que vous en avez entendu parler aussi, avec Michael Youn, Barbara Schulz, Eric Helmholtz, voilà, donc...
Disons que moi il y a un problème, disons, sur le film, parce que, sans doute le film est bien, enfin, on l'a pas vu. Moi mon petit problème, c'est Michael Youn, j'ai un peu de mal avec Michael Youn, mais bon. Moins avec Barbara Schulz, mais avec Magali. Ouais.
J'en rajouterai pas, mais bon, je crois qu'on partage un peu le même avis.
Ouais.
Alors ensuite, une autre comédie, film d'Alain Guiraudy, c'est Miséricorde, avec Félix Kissil, Catherine Fraud, Jean-Baptiste Duron. Donc l'histoire de Jérémy qui revient à Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron boulanger, mais entre une disparition mystérieuse, un voisin menaçant et un abbé aux intentions étranges, eh bien son court séjour au village prend une tournure inattendue.
Ah, ça c'est intriguant ça. Mmh. Alain Guiraudy, c'est un cinéaste intéressant, donc je serais curieux de découvrir ce film.
Autre sortie à partir donc toujours de mercredi, eh bien nous verrons un film de Hassan Guérard, Barbès, Little Algérie, donc une comédie dramatique qui raconte l'histoire de Malek, la quarantaine, célibataire, qui vient d'emménager à Montmartre et qui accueille bientôt chez lui son neveu Riyad, fraîchement arrivé d'Algérie. Et donc ensemble, ils découvrent Barbès, le quartier de la communauté algérienne, très vivant malgré la crise sanitaire en cours. Et donc ces rencontres avec les figures locales vont permettre à Malek de retrouver une part de lui qu'il avait enfouie, de renouer avec ses origines et de commencer à faire le deuil de ses disparus. Voilà, donc ça sort aussi mercredi. Autre sortie, Nora de Tafik Al-Zaidi, avec Yagoub Afan, Maria Barawi, Donc c'est l'histoire, ça se passe en Arabie Saoudite dans les années 90, l'histoire de ce nouvel instituteur, Nader, qui arrive dans un village isolé. Il rencontre Nora, donc une jeune femme en quête de liberté, et leur relation secrète, nourrie par l'art et la beauté, va libérer les forces créatrices qui animent ces deux âmes sœurs, malgré le danger. C'est pas une comédie, parce que je vois notre ami Chris qui est hilar. Malheureusement, j'aimerais bien que ça soit une comédie, mais ça n'en est pas une. Autre sortie, film qui s'intitule Sauvage, qui est un film d'animation de Claude Barras. Ça se passe à Bornéo, en bordure de la forêt tropicale. Eh bien, l'histoire de Keria, qui recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Et au même moment, eh bien, son jeune cousin qui vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières, eh bien, ensemble, Keria, Selaï et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. Avec un petit goût politique et d'actualité aussi sur la défense de la nature, eh bien, Sauvage certainement trouvera sa place dans la programmation, et ça se passe donc au Lido, en tout cas, c'est les trois films que je vous ai annoncés. Et je crois qu'on a fait quand même un grand tour de ces sorties. Ça fait déjà pas mal de sorties à partir de mercredi. Alors je regarde vite fait s'il y en a d'autres d'annoncer. Nous avons aussi Harold et le crayon magique de Carlos Saldana, donc qui est là aussi un film d'aventure, film aussi d'animation. Qui sera projeté dès mercredi sur Esther. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, voilà, de toutes ces sorties, en tout cas sur Limoges, je le précise, oui. Bien. Parce que, forcément, il y a quelques films qui sont en sortie nationale que l'on ne verra pas, un petit peu à l'image de Terrifier 3.
Et oui, je pense que Terrifier, on va attendre un petit peu. Peut-être on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Il y a aussi le film qui, on en parlera peut-être la semaine prochaine, Suleiman. Il a de très bonnes critiques actuellement, on en parlera. Voilà donc pour ce petit panorama des films à l'affiche à partir de mercredi 16 octobre. Laurent, maintenant, il est temps de nous quitter.
Alors peut-être en musique encore.
Avec plaisir.
On parlait de De Palma, on va écouter le thème de notre ami Pino Donaggio pour ce film mythique dans la carrière de De Palma, Carrie, qui a scotché toute une jeunesse à l'époque.
Ah oui.
Dont on faisait partie d'ailleurs, je crois.
Finalement.
Bon, on va pas dire la date de réalisation du film.
Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que le thème, je pense que c'est le thème que tu vas nous passer là, a été repris par Tim Burton dans son Beetlejuice 2, qu'on entend à la fin.
Ouais.
Voilà. Donc il a eu raison d'ailleurs, parce que ça fonctionne très bien aussi dans le film de Tim Burton, et puis c'est sublime.
Oui, c'est vrai. Tout de suite donc, Carrie, Pino Donaggio.
de Pino Donaggio pour Carrie au bal du diable, film de Brian De Palma avec Sissy Spacek, John Travolta, Piper Laurie, Nancy Allen, Amy Irving, très 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 beau film, adapté bien sûr du roman de Stephen King. Et bien cette fois-ci, l'émission touche à sa fin. Vous écoutiez Cinéscopie, l'émission de Laurent Craven et Chris Lucas sur RTF. On se retrouve évidemment lundi prochain à partir de 20h30. On vous fera le compte-rendu, théoriquement, si nous revenons vivants, bien sûr, du Festival International du Film de Gand et notamment de sa section consacrée à la musique de film, les World Soundtracks Awards. Nous irons à la rencontre d'Eliott Goldenthal, Philippe Rombie et Simon Franglen, qui dirigera l'orchestre lors de du concert consacré à James Horner.
Oui.
Voilà, donc une belle soirée en perspective et dans la belle ville de Gand. Voilà, parce que tu vas voir, Laurent, c'est une très très belle ville, comme Bruges, qui n'est pas très loin d'ailleurs.
Oui, oui. Alors, on va visiter tout ça, voilà.
Ouais, voilà, on va en profiter. Voilà. Tant qu'on est sur place, autant profiter. On vous souhaite en attendant une excellente semaine à Limoges et dans les salles de cinéma, bien sûr.
Oui, là, vous avez très, très bon film, un large choix et dont on vous parlera aussi la semaine prochaine. Hein, il y a quelques films qu'on a en réserve et plus les sorties. Voilà, on a de quoi tenir quand même quelques émissions.
Tout à fait.
Et donc, on vous souhaite une très très bonne semaine. Allez fréquenter les salles obscures, hein, on ne vous le dira jamais assez.
D'autant plus que le temps, malheureusement, revient un peu à la pluie en fin de semaine. Donc,
autant
profiter pour aller au cinéma.
Tout à fait. Et puis bon, c'est un petit peu la saison aussi. Allez, passez une bonne semaine et on vous dit à lundi prochain. Salut, ciao, bonne toile.